vendredi 17 novembre 2017. Faisons un vœu, 17-17. Hélène Denis qui vous accompagne. Bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que vous êtes comme Louis-José Houde?
Non.
Non? Préférez-vous novembre?
Préférez-vous à quoi?
Parce que son spectacle s'intitule « Je préfère novembre », en tout cas quelque chose comme ça. C'est un titre un peu provocateur parce que dans le discours officiel, on entend souvent les gens qui trouvent que le mois de novembre est plate. Moi, je ne suis pas d'accord.
C'est vrai qu'il est dur pour
certaines personnes. Plutôt du côté de Louis-José Houde.
Mais j'aime beaucoup le mois de novembre, effectivement.
Oui? Oui. Pourquoi? Une raison. Après ça, je vous pose plus de questions.
Le changement de couleur, le froid qui arrive.
Oui.
Bon, c'est sûr, il faut ranger les moteurs. Il faut ranger les deux roues à moteur, mais c'est pas grave. Ça, on passe à travers. Puis c'est le salon du livre.
Ah oui, qui bat son plein jusqu'à lundi.
Ben oui, tout à fait.
Est-ce que vous allez faire un tour en fin
de
semaine?
Oh, oui, je suis là ce soir. J'y étais hier soir.
Ça se passe bien?
Oui, c'est tranquille, mais il y a des gens intéressants.
Oui, mais en fin de semaine, ça ne sera pas tranquille, ça, c'est sûr. Alors, si vous voulez rencontrer, entre autres choses, Mathieu Tessier.
Ben oui, kiosque 320.
Ce soir, entre quelle heure et quelle heure?
Ça me ferait plaisir de vous faire une signature sur peu importe le document.
Ben oui, séance de dédicace. Pourquoi pas, même si je n'avais pas écrit de livre.
Exact. Je suis là jusqu'à la fermeture. Alors, je suis là jusqu'à 10 heures ce soir.
Oh, d'accord. Alors, passez par notre stand 320.
Hein, 320, c'est exact.
Parfait. On vous écoute.
Alors, 17 novembre, c'est la journée de la philosophie à l'UNESCO. Et c'est aussi la journée mondiale de la prématurité. Pour ce qui est des événements du 17 novembre, en 1558, je remonte loin, mais c'est une période que j'affectionne, à la mort de Marie Tudor, sa demi-sœur Élisabeth devient reine d'Angleterre. Nous avons en 1800 le Congrès siège pour la première fois à Washington. John Adams est le premier président logé à la Maison-Blanche. 1866, toujours un 17 novembre, l'île de Vancouver est jointe à la colonie de la Colombie-Britannique. 1869, après 10 ans de travaux, le canal de Suez reliant la mer Rouge à la Méditerranée est inauguré. Nous avons une chanson qui n'est pas dans mes éphémérides. Non. En 1875, un service ferroviaire régulier débute entre Montréal et New York. En 1961, le chimiste Marcel Chaput est congédié par le gouvernement canadien pour son action en faveur de l'indépendance du Québec. En 1969, début à Helsinki, des discussions entre Washington et Moscou sur la limitation des armements atomiques. Talonné dans l'affaire Watergate, en 1973, Richard Nixon confie à des patrons d'Associated Press à Orlando, « Les gens doivent savoir si leur président est un escroc ou non. Eh bien, je ne suis pas un escroc », dit-il en anglais. 1987, début d'une grève de 1800 médecins, résidents et internes, internes du Québec.
1800 médecins.
Médecins. Ben oui, je ne sais pas pourquoi le E n'est plus muet dans ma
mais
phrase.
Mais quand on lit, des fois, on y va avec les syllabes. Je vous comprends.
Mais vous êtes bien aimable. En 1992, Ottawa offre 100 000 $ de compensation à chaque victime d'Edwin Cameron qui, pour la CIA, leur avait infligé un lavage de cerveau à l'Université McGill entre 1957 et 1962. En 1994, Ottawa lance une enquête sur les brutalités commises contre des Somaliens lors d'une mission de l'ONU au printemps 1993. 2005, la Cour suprême donne raison au fabricant montréalais Megablox, déniant à Lego le monopole de la brique jouet emboîtable. Et en 2010, la Serbie demande l'aide à l'Agence policière internationale, Interpol, pour retracer le criminel de guerre le plus recherché d'Europe, l'ancien général serbe Ratko Mladic. Et pour ce qui est des naissances, Gordon Lightfoot est né en 1939. C'est drôle, en lisant cela, je me souviens que l'année passée aussi, j'ai fait les éphémérides un 17 novembre.
Ah oui?
Mais oui.
Mais ça fait quoi, 5 ans que vous êtes ici? Puis ça les fait... éphémérides à Canal M dans l'émission Les Voix de service, ça a commencé quand?
Ça doit faire 4 ans, probablement, possiblement. Peut-être même 5 ans, effectivement.
Vous parlez de Gordon Lightfoot.
Ça fait chaque année.
Mais il est tellement bon.
C'est vrai. Le cinéaste américain Martin Scorsese, en 1942, et l'actrice française Sophie Marceau, est née en 1966, un 17 novembre. Et pour ce qui est des décès, le regretté sculpteur français Auguste Rodin, qui est décédé en 1917. Paul Éluard, poète cher à mon cœur, en 1952, et en 1696, la tsarine Catherine II de Russie nous a quittés. Mais voilà, c'est ce qui conclut les éphémérides du 17 novembre pour aujourd'hui.
Merci. À la une de la presse, exclusif absolution pour un agresseur, la Cour vient d'accorder une absolution inconditionnelle à un ex-enquêteur de la Commission des droits de la jeunesse qui a admis avoir agressé sexuellement une enfant de 5 ans. Explication. Exclusif, section affaires, l'Église bloque la vente d'une tour, le 1000 de la Gauchetière, au centre-ville de Montréal. Le centenaire de la LNH, la LNH 100 ans plus tard, des débuts difficiles. La chronique de Rima El-Khoury, Collège de Rosemont, les relations profs-élèves seront interdites. Et cinéma, junior majeur dans une autre ligue. On parle du film qui met en vedette Antoine Pilon, notamment. L'Église bloque la vente du 1000 de la Gauchetière. La Caisse de dépôt a suspendu le processus de mise en vente du 1000 de la Gauchetière, l'une des tours de bureau les plus chères du centre-ville de Montréal. Sa filiale immobilière, Ivanhoé Cambridge, l'un des grands propriétaires de la planète, a été incapable de s'entendre avec l'archevêché de Montréal qui détient le terrain sur lequel est construit le gratte-ciel, selon les informations obtenues par la presse. La Caisse était en discussion avancée avec un consortium impliquant groupe MASH, Petra et la famille Saputo. Giuseppe Borsellino, principal dirigeant de la société Petra et associé dans Borsa, et le beau-frère de Lino Saputo père, Jolina Holding familiale des Saputo, est actionnaire du groupe Petra. Le consortium possède déjà la tour CIBC au 1155 boulevard René-Lévesque Ouest et la tour de la Bourse au 800 place Victoria. En 2014, le trio détenait conjointement environ 4 millions de pieds carrés de bureaux au centre-ville de Montréal. La Caisse détient la tour de 51 étages depuis qu'elle l'a achetée en 2002 pour un peu moins de 200 millions. L'immeuble a été construit au début des années 90 par et pour la firme de génie qui portait alors le nom de Lavalin. La vente du 1000 a finalement achoppé sur la question du bail amphithéotique. Le 1000 est en effet construit sur un terrain appartenant à l'archevêché de Montréal. Il reste moins d'années à courir au bail de longue durée, ce qui enlève de la valeur à l'immeuble et rend la transaction moins alléchante pour les parties. À la demande du Huffington Post Québec, la mairesse Valérie Plante a présenté une lettre expliquant son parcours et sa vision pour les 4 prochaines années à la tête de Montréal. Nous la reproduisons ici au lendemain de son entrée en fonction. La lettre s'intitule « Merci Montréal !» La vitalité, le dynamisme, la beauté et l'unicité de Montréal m'ont toujours attirée. La joie de vivre, la passion et l'ouverture des Montréalais et des Montréalaises m'ont toujours séduite. Il y a 20 ans, j'ai choisi de m'établir à Montréal et d'y élever mes enfants parce qu'on ne peut pas tourner le dos à un tel coup de foudre. Mon amour pour Montréal m'a poussée à me lancer en politique avec Projet Montréal en 2013. J'avais alors la conviction que la ville que j'aimais pouvait être encore meilleure, qu'elle pouvait mieux répondre aux besoins et aux aspirations de sa population et que mon dévouement pour notre belle ville pouvait inspirer des changements positifs. Mon intuition m'a bien servi. En tant que conseillère de Sainte-Marie, je suis parvenue à faire avancer des projets qui me tenaient à cœur. 4 ans plus tard, après être devenue chef de Projet Montréal, les Montréalais et Montréalaises m'ont choisi pour guider la destinée de leur ville. Ce mandat, je le reçois avec beaucoup de joie et d'humilité. Le fait d'être devenue la première mairesse de Montréal ajoute à la fierté que je ressens. Il aura fallu attendre 375 ans après l'arrivée de Jeanne Mance pour que Montréal soit enfin dirigé par une femme. Cet honneur, je le chéris et je souhaite en faire un exemple afin que toutes les femmes et les jeunes filles de Montréal et d'ailleurs prennent conscience qu'elles sont aussi capables de réaliser leurs rêves, qu'elles ont un rôle important à jouer dans la société et que rien ne peut les empêcher d'atteindre leur but. Mon but demeure d'ailleurs le même qu'il y a 4 ans. Je suis toujours aussi convaincue que notre ville peut s'améliorer, peut mieux répondre aux besoins des Montréalais et des Montréalaises, peut connaître un essor économique encore plus enviable et peut attirer encore davantage d'entreprises et de familles. Je suis d'avis que pour y arriver, il importe de développer notre réseau de transport collectif de manière à améliorer sensiblement le service. C'est d'ailleurs pourquoi je souhaite être la mairesse de la mobilité. La congestion à Montréal ne se limite plus qu'aux routes. Elle atteint désormais le réseau de transport en commun et les pistes cyclables. Les Montréalais sont fatigués, frustrés de perdre leur temps dans les bouchons. Nous devons agir. Au cours des 4 prochaines années, je compte faire des transports en commun une priorité en ajoutant des autobus sur les routes, en aménageant des voies réservées et en travaillant avec Québec et Ottawa pour développer notre métro. Je souhaite aussi développer notre réseau cyclable en ajoutant plusieurs kilomètres de voies protégées chaque année. Le temps de la peinture sur le sol est révolu. Nous devons offrir aux Montréalais et aux Montréalaises des aménagements sécuritaires. L'autopartage ne sera pas en reste. Je m'assurerai d'éliminer les dispositions qui freinent le développement des services d'autopartage à Montréal, particulièrement au centre-ville. Je veux faire avancer Montréal et je ferai ce qui est nécessaire pour y arriver. Je rêve d'une ville où circuler n'est pas synonyme de frustration ou de danger. Je rêve d'une ville à échelle humaine où il fait bon vivre, travailler et s'amuser. Je rêve d'une ville où les familles peuvent devenir propriétaires sans se ruiner. Je rêve d'une ville où les start-up peuvent se développer et prospérer et où les grandes entreprises viennent s'installer. Cette ville, je veux la bâtir avec vous, Montréalais et Montréalaises. Ma victoire, c'est aussi la vôtre. J'espère faire rêver les Montréalais et les Montréalaises, vous faire voir à quel point Montréal est belle et accueillante et le sera encore davantage, vous faire croire en un avenir meilleur et vous impliquer dans les décisions qui nous y mèneront. Je souhaite être la mairesse rassembleuse que les Montréalais et les Montréalaises attendaient et mettre fin à la culture du secret qui régnait à l'Hôtel de Ville. Je souhaite aussi offrir à la population une meilleure qualité de vie et de meilleurs services. Montréal entre aujourd'hui dans une nouvelle ère exaltante. L'avenir s'annonce prometteur, bien que rempli de défis. Je suis prête pour la tâche et je sens que Montréal est prête pour la suite. Merci Montréal pour la confiance. Au boulot! Le réseau électrique métropolitain REM pourrait-il dérailler avant même la première pelletée de terre? C'est ce que devra trancher un juge de la Cour supérieure la semaine prochaine, mardi, alors que les avocats de la Caisse de dépôt et placement et du gouvernement du Québec tenteront de faire déclarer irrecevable une requête déposée par des opposants au superprojet. Les deux auteurs du spectaculaire braquage d'un camion blindé Garda Word commis en plein jour dans l'ouest de Montréal sont sortis de prison hier après avoir passé une seule année derrière les barreaux. Grâce à une volte-face de la poursuite, le voleur multirécidiviste Joseph Évrard et son complice Tessie Beaulieu ont plaidé coupables à des accusations réduites alors qu'ils risquaient une longue peine d'emprisonnement. Mercredi, les avocats des accusés s'apprêtaient à plaider une requête en exclusion de preuves en vue du procès devant jury. Or, coup de théâtre de la couronne au début de l'audience, la majorité des chefs d'accusation, notamment de séquestration et de complot, ont été retirés avant que la requête ne soit présentée. Les deux accusés ont finalement plaidé coupables à un chef de vol qualifié. Ils ont reçu une peine d'une journée de prison en tenant compte de l'année passée en détention préventive. Hier, ils ont donc recouvré leur liberté. Plusieurs mandats de perquisition du service de police de la Ville de Montréal n'auraient pas été obtenus dans les règles de l'art et auraient dû être exclus de la preuve présentée au procès, soutenait la défense. Papa!
Sous nos joues, on s'est éteint, déraciné, on a mis du soir.
De son album Himalaya Mon Amour, c'était Alex Nevsky qui nous chantait On leur a fait croire.
La une du Devoir, Valérie Plante assermentée, une belle photo, bien des gens qui applaudissent. Et puis Valérie Plante, qui est au beau milieu de cette photo, la mairesse nouvellement élue de Montréal, a prêté serment jeudi en même temps que 102 des 103 élus au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au marché Bon-Secours. Les librairies indépendantes se sentent flouées. Renaud Bré a largement profité du plan d'action sur le livre de la SODEC. Marijuana, Québec risque de se heurter aux tribunaux. Le projet de loi va à l'encontre de la volonté fédérale en interdisant la production personnelle. La Grande Bibliothèque, le Québec d'une autre époque mise en ligne. Certaines des photographies les plus anciennes de la Collection nationale du Québec sont désormais disponibles en ligne. Bibliothèque et Archives nationales du Québec vient de rendre disponibles en format numérique 202 photographies exceptionnelles contenues dans les fonds d'archives Paul Gouin. Ce sont de fragiles images un peu jaunes tirées à l'albumine. Économie, le revenu annuel garanti, une fausse bonne idée, l'analyse d'Éric Desrosiers. Itinérance, 30 ans d'engagement social. Science, la métamorphose du musée d'Ottawa. Zeitgeist, c'est la chronique de José Blanchette. Centenaire malgré eux, alors qu'on voit deux dames, photos noir et blanc. Elles ont un chapeau de paille sur la tête, lunettes fumées, robes fleuries, ou en tout cas imprimées, et toutes les deux mangent un cornet de crème glacée. Québec s'est résigné jeudi à déposer son projet de loi encadrant le cannabis, une pièce législative que le gouvernement Couillard a voulu tellement restrictive qu'elle risque d'échouer au test des tribunaux si elle demeure dans sa forme actuelle, préviennent des juristes consultés par Le Devoir. Le projet de loi prévoit que l'achat, le transport, l'entreposage et la vente de cannabis seront effectués par la Société québécoise du cannabis, SQC. Cette filiale de la Société des alcools du Québec, qui devra gérer un marché évalué à 500 millions de dollars, ouvrira dans un premier temps 15 succursales chargées de la vente de la substance à un prix qui se situera entre 7 $ et 10 $. D'ici 2 ou 3 ans, 150 succursales de la SQC pourraient ouvrir leurs portes. La pièce législative instaure aussi l'âge légal de consommation de la marijuana à 18 ans et met en place un régime de tolérance zéro pour les automobilistes, en plus d'interdire la culture de cannabis à des fins personnelles sous peine d'amende pouvant atteindre 750 $ pour une première offense. Or, le cadre légal du gouvernement fédéral est tout autre. Il permet aux citoyens de faire pousser jusqu'à 4 plants de marijuana à domicile. Une province peut-elle contrecarrer l'intention fédérale en établissant la limite zéro plant et en interdisant de facto ce que le fédéral autorise? Deux spécialistes en droit affirment que non. Fonds du plan d'action sur le livre créé par Québec pour aider le réseau des librairies agréées à travers la province ont beaucoup profité aux géants Renaud Bré, révèlent des données de la SODEC. Une situation inattendue qui scandalise les acteurs du milieu des librairies indépendantes. Est-ce qu'une entreprise à maturité de l'ampleur de Renaud Bré a vraiment besoin de l'aide de l'État? Demandait jeudi au Devoir Dominique Lemieux, directeur général de la Coopérative des librairies indépendantes du Québec. Je ne crois pas. C'est que les librairies indépendantes du Québec ont touché l'an dernier quelque 572 000 $ dans le cadre du volet d'aide de la SODEC pour les librairies agréées. Pendant la même période, les 46 succursales agréées du groupe Renaud Bré et Archambault ont reçu près de 760 000 $. Le groupe a aussi obtenu deux subventions pour des projets collectifs d'une valeur de 405 000, dis-je bien. Au total, c'est plus de 1,1 million que Renaud Bré a reçu de la SODEC. La SODEC promet des changements dans son programme d'ici un an pour tenir compte des réalités de divers points de vente, des divers points de vente notamment. Mais on n'explique pas précisément ce qui a changé entre 2015 et 2016 et 2016 et 2017 dans le traitement des demandes de Renaud Bré. En coulisses, plusieurs intervenants évoquent un lobbyisme important de la part de la chaîne des librairies. Les librairies indépendantes estiment que l'arrivée fracassante de Renaud Bré sur le marché des subventions s'est faite au détriment de leur propre réseau qui compte quelque 140 librairies. Le gouvernement du Québec songe à quadrupler les sanctions liées à l'utilisation du téléphone cellulaire au volant dans sa toute prochaine réforme du Code de la sécurité routière. Selon un document obtenu par Cogeco Nouvelles, l'amende s'élèvera à entre 300 et 400 $ selon la gravité de l'infraction. Actuellement, les amendes varient de 80 à 100 $ et 4 points d'inaptitude sont inscrits au dossier du conducteur du contrevenant. Dans le nouveau Code de la sécurité routière, il n'y aurait toutefois pas d'ajout de points d'inaptitude. Si le Québec adoptait de telles sanctions, leur sévérité se rapprocherait de celles constatées en Ontario et en Colombie-Britannique. Le ministre des Transports, André Fortin, n'aurait cependant pas l'intention d'imposer des moyens techniques tels les brouilleurs d'ondes pour empêcher l'utilisation du téléphone au volant. Plante fait naître l'espoir, se réjouit une chef de file de la lutte contre l'itinérance. France Labelle recevra l'Ordre du Canada pour son implication auprès des sans-abri. Avec une nouvelle administration aux commandes de la ville, l'espoir est permis, estime France Labelle, directrice générale du Refuge des jeunes de Montréal. Nommée membre de l'Ordre du Canada, plus haute distinction au pays ce vendredi, elle revient sur 30 ans de politique en itinérance. Difficile d'apprécier avec justesse le visage mouvant de l'itinérance, croit celle qui préside aussi le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Visible et localisée à l'époque des Poncs au centre-ville, elle se fait aujourd'hui plus diffuse et dissimulée dans Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve, Pierrefonds, le Sud-Ouest ou Montréal-Nord. Si statistiquement les jeunes hébergés ne sont pas forcément plus nombreux, ceux en situation de précarité le sont. Leur mode de survie les conduit à être plus mouvants. Ils sont plus sans domicile fixe que sans abri, estime France Labelle. Pour son dévouement à la défense des droits des plus démunis ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté et l'itinérance, indique le site officiel de la gouverneure générale du Canada, France Labelle rejoint l'Ordre du Canada. En 30 ans, j'ai porté tous les chapeaux, Mère Teresa, emmerdeuse, empêcheuse de tourner en rond. Je reçois cette médaille comme la reconnaissance d'avoir dérangé.
Les chauds lapins, les vases de rats, les étalons et les hommes caméléons, on dira ce qu'on voudra, mais des fois ça sent la basse-cour. On dira ce qu'on voudra, mais la nature nous joue des tours, surtout après quelques bières, quand on veut faire nos fiers, qu'on s'envoie des vacheries, qu'on sert de nos langues de vipères, qu'on se fait des coups de cochon, qu'on gueule et qu'on se trouve bon, qu'on se lèche, qu'on se croque, qu'on se fait des combats de coq. Voilà. c'est ce que nous sommes, c'est pas pour faire mal, et c'est bien normal d'avoir quelque chose d'animal. Quelque chose d'animal. Les fins renards, ils s'en suivent barre. Les bœufs qui rient, les gorilles et les vieilles billes, on peut pas dire que c'est drabe dans ce grand panier de crabes. Ça boit, ça danse, y'a même les requins de la finance qui sont là dans un coin en train de parler de foin. À deux jeunes moutons noirs qui veulent rien savoir et qui font l'autruche et qui font coin coin. Ils laissent couler leurs mots comme l'eau sur le dos d'un canard. Voilà, c'est ce que nous sommes, c'est pas pour faire mal et c'est bien normal d'avoir quelque chose d'animal. Assiette à queue de cheval, les jeunes poulettes et les chacals, à pas de tortue ou bien à pas de loup, s'avance ou bien recule et drague un peu partout. Là y'a la grande gazelle qui fait la chatte, qui fait des yeux de biche et qui joue avec ses nattes, et ça grue comme des vers et tout le monde se mouille, et même les vieux loups de mer et même les hommes gredouillent. Voilà, c'est ce que nous sommes, c'est pas pour faire mal, et c'est bien animal. Quelque chose d'animal. Les coyotes sous la lune sont à rôder dans la nuit d'été, et ça hurle dans le métèque, la grosse baleine, le rat de bibliothèque, lui qui en a pour Delphine et son allure féline, son air à part et son string en léopard. Je vous dis sans trop me tromper qu'un soir ça va péter, comme pèterait un crapaud qu'on aurait fait bien trop fumer. Voilà, c'est ce que nous sommes, mais c'est pas pour faire mal, et c'est bien normal d'avoir quelque chose d'animal. Chose d'animal. Quelque chose d'animal. Quelque chose d'animal.
Luc de la Rochelière et sa chanson « Quelque chose d'animal » tirée de son album « Quelque chose d'animal ».
SAQ du POT, entre guillemets, SAQ du POT, cet été, 150 à venir. Le Québec adopte le cannabis. Trois pages y sont consacrées dans le Journal de Montréal. À 18 ans, permis. Dans les parcs, interdit. Prix, inconnu. Culture à la maison, interdit. 30 grammes en poche, permis. 150 grammes à la maison, permis. Vente de muffins, interdit. Pot au volant, interdit. Un pied sur le frein, c'est une chronique de Mario Dumont. Trop compliqué, la chronique de Lise Ravary. Et approche prudente, chronique de Claude Villeneuve à propos de cette loi du Québec, à propos de cette loi sur le cannabis. Défaite honteuse contre les Coyotes, pire que pire, Coyotes 5, Canadiens de Montréal 4. Affaire Ouellette, Chagnon s'élève contre l'UPAC. Happé deux fois en 14 mois par des conducteurs impatients, un signaleur routier est décédé au début de la semaine après avoir été heurté. Ça n'aurait jamais dû lui arriver. Qu'est-ce qui est si urgent pour qu'un automobiliste soit prêt à risquer une vie? Qu'est-ce qui est plus important qu'une vie, déplore Lynn Lemay. Le 7 novembre dernier, Michel Carmel coordonnait des travaux d'asphaltage sur la route 220 à Bon-Secours en Estrie lorsqu'il a été heurté par une conductrice. L'homme de 60 ans a été maintenu en vie artificiellement pendant plusieurs jours avant de finalement succomber à ses blessures mardi. Avant l'impact, la conductrice fautive se serait vue refuser l'accès au chantier par une signaleuse routière puisqu'elle parlait au cellulaire en conduisant. Elle se serait montrée impatiente et c'est à ce moment que M. Carmel, coordonnateur à la signalisation, serait alors intervenu selon des témoins. Il se serait placé devant le véhicule et la dame l'aurait renversé. Il est tombé sur la tête. C'est une vie perdue inutilement. C'est épouvantable de voir comment les gens ne comprennent pas à quel point ces travailleurs font une job éprouvante mais nécessaire. Ils sont là par mesure de sécurité, déplore Mme Lemay. Et toujours à propos des signaleurs routiers, les signaleurs routiers ne sont pas assez protégés contre les automobilistes impatients et imprudents dans les zones de construction, dénonce l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec. Le représentant des signaleurs routiers québécois, Jean-François Dionne, dit « Les signaleurs routiers ne sont pas des pancartes. Il s'agit de gens qui ne font que leur travail et qui ont des familles. » Il somme d'ailleurs le ministère des Transports de changer rapidement la loi lors de la prochaine réforme du Code de la sécurité routière prévue prochainement. L'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec aimerait en effet voir les sanctions en lien avec les signaleurs doublées, passant de 3 points d'inaptitude à 6. Monsieur Dionne insiste, la majorité des signaleurs routiers ont déjà été victimes de manœuvres brusques ou d'injures, plusieurs se sont aussi déjà fait happer par un véhicule. Recevoir des cochonneries sur soi comme du café, des bouteilles d'eau, de la nourriture, c'est courant. Le pire que j'ai vu, c'est une signaleuse qui s'est fait lancer une poutine. Il encourage ses collègues à dénoncer à la police les excès de colère ou les imprudences des automobilistes. La guerrière joyeuse, c'est entre guillemets, s'empare des rênes de Montréal. Une haie d'honneur d'une cinquantaine de citoyens l'attendait devant le marché Bon Secours où se déroulait l'événement chantant « La vie en rose » d'Édith Piaf en référence à son projet bien connu de ligne rose de métro. Avant d'accueillir tour à tour les élus dans la grande salle de bal, des chants traditionnels autochtones en l'honneur des femmes ont ouvert la cérémonie. La nouvelle mairesse, Valérie Plante, vêtue d'une robe d'un bleu vif, a reçu l'épinglette officielle de la ville des mains de son conjoint Pierre-Antoine Harvey et a signé le livre d'or entouré de ses fils Émile et Gaël, prenant même le temps de lancer quelques blagues à celui-ci. Madame Plante, qui a pris officiellement les rênes de la ville à l'issue de cette sermentation, a nommé les 5 principaux défis qui guideront son mandat, mais la mobilité semble prendre une place spéciale dans son esprit. Alors, les 5 défis de Valérie Plante, la mobilité, faciliter les déplacements en métro, en vélo, à pied, en auto et en autobus, sécurité pour les piétons, les cyclistes, les jeunes et les aînés surtout, habitation, des quartiers plus familiaux avec de la mixité culturelle, économique et des logements décents, services publics, ils doivent être plus efficaces et plus près des citoyens, développement économique, mettre l'accent sur les besoins locaux et l'intégration des investissements internationaux. de grosses promesses à tenir. Parmi celles-ci, ligne rose et tarifs sociaux, réseau express de vélos et sécurisation de 20 intersections dangereuses, achat de 300 nouveaux bus hybrides d'ici 2020 et transfert de la course de Formule 1 E au circuit Gilles Villeneuve. La preuve contre Accurso est peu crédible, dit son avocat. Maître Marc Labelle a tenté hier, dans ses plaidoiries finales, de soulever des doutes dans l'esprit du jury sur les faits reprochés à M. Accurso. D'après lui, les preuves contre l'entrepreneur sont faibles et peu fiables. Selon la Couronne, une vingtaine d'entrepreneurs, dont M. Accurso, remettaient 2 % de la valeur des contrats arrangés en argent, comptant à l'ex-maire Gilles Vaillancourt. La Couronne présentera ses plaidoiries aujourd'hui et le jury devrait être séquestré la semaine prochaine afin de délibérer avant de rendre son verdict. Jacques Chagnon a écorché l'unité permanente anticorruption, UPAC, dans sa directive forçant dorénavant les corps policiers à prévenir le président de l'Assemblée nationale lorsqu'ils arrêtent un député. Les méthodes employées par l'UPAC dans la présente affaire dénotent un manque flagrant de considération à l'endroit de l'Assemblée, a-t-il tonné en faisant lecture de sa longue décision hier au Salon bleu du Parlement. Ce discours était attendu dans la foulée de l'arrestation du député libéral Guy Ouellet le 25 octobre dernier. Le leader parlementaire libéral Jean-Marc Fournier a émis des réserves sur la sortie de Jacques Chagnon. « On doit supporter nos institutions. Je n'ai pas à choisir entre une et l'autre. Il y a un président, des députés et un corps de police, et elles sont des institutions de notre système de gouvernement. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'avoir la plus grande prudence », a-t-il affirmé aux journalistes. Plusieurs députés et ministres libéraux, incluant Pierre Moreau, ont refusé d'applaudir la directive du président. La saison de Bixi a battu tous les records, près de 5 millions de déplacements cette année. Il n'y a pas de zone grise, on a battu tous les records, s'est réjouie la porte-parole de l'organisme à but non lucratif Bérangère Thériault. Plus de 258 000 personnes ont effectué 4,8 millions de déplacements dans la métropole entre la mi-avril et le 15 novembre, date à laquelle a pris fin le service. Le nombre d'usagers possédant un abonnement annuel, qui a augmenté de 9 % par rapport à l'an dernier, n'a jamais été aussi élevé, a noté Mme Thériault. Le 30 juillet a été la journée la plus achalandée, alors que près de 42 000 déplacements ont été réalisés dans les rues de Montréal, de Longueuil et de Westmount. Malgré cette saison record, Bixi demeure aux aguets, alors que de jeunes sociétés chinoises comme Blue Gogo et Mobic, qui proposent des systèmes de vélos en libre-service sans station d'ancrage, commencent à tailler leur place aux États-Unis.
Such a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Oh, such a perfect day. Feed animals in the zoo, and then later movie too, and then home. Oh, it's just a perfect day. I'm glad I spend it with you. It is such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. And weekenders on our own. Such a fun. Just a perfect day. You made me forget myself. And I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I
perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. To reap just what you sow. Ooh, you're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Ooh, to reap just what you sow.
Chanson de Lou Reed qui date de 1972, chantée par Carla Bruni, tirée de son plus récent album, French Touch.
La chronique de José Blanchette, ah mes aïeux, centenaire malgré eux, entre parenthèses, et avec une larme de brandy. Je devais avoir 7 ou 8 ans lorsque la fascination du bon vieux temps s'est emparée de moi pour me faire danser un 7 carrés avec le diable. J'avais la certitude que mon grand-père Alban était un redoutable conteur qui s'éteindrait avec un scénario à jamais révolu entre les filles de Caleb d'Arlette Cousture et Babine de Fred de Pellerin. Tous les samedis soirs, je revenais à la charge pour qu'il puise au fond de sa mémoire, qu'il laisse sourdre les souvenirs un à un, magnifiés, ou usé par le temps, un gin tonique, son remède, à la main. La patrimonieuse pratiquante que je suis pressentait que cette histoire-là, portée par la tradition orale, était en péril. Une histoire de peu de mots, ponctuée de silence, de camps de bûcherons, de combines en laine mouillée, de gros gins, de doigts gourds, de grippe espagnole, de cretons gras et de bines odorantes, de survie contre les éléments. « La vie, c'est un combat, ma petite », répétait Alban, né en 1909 à Cap-des-Rosiers, et vaincu au champ de bataille de l'usure, 80 ans plus tard, un peu de gin tonic sur les lèvres en guise d'au revoir. En Afrique, on dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Pour Alban, c'était le survenant, le sorcier de l'île d'Anticosti, 30 arpents, un homme et son péché. Pas qu'il les ait lus, non, mais il aurait pu être un des leurs. J'ai retrouvé Alban et tous ses contemporains nés au début du 20e siècle dans le fabuleux livre de portraits « Vivre 100 ans » signé et illustré par les sœurs Justine Latour et Marie-Noëlle Blais, 32 et 36 ans, génération Y. Elles se sont entichées de leur grand-mère d'abord, puis ont décidé de faire parler une douzaine d'ancêtres qui avaient le tic-tac, le branlant et toute leur tête pour raconter. Ainsi, l'insoumise Claire Sigouin, qui vit seule et conduit toujours sa voiture à 102 ans, s'enfile de l'huile d'olive et du citron chaque matin et une petite larme de brandy pour brûler les microbes. La vieille dame a tartiné son pain avec de la misère, plus souvent qu'à son tour, surtout durant la Grande Dépression. À l'époque, on s'accrochait à la foi. Aujourd'hui, on s'agrippe à l'espoir. Les deux finissent par nous tuer, remarquez. N'empêche, l'espérance de vie, encore l'espoir, ne cesse d'augmenter et on prévoit que le nombre de centenaires triplera d'ici 10 ans dans un Québec où le pouvoir gris s'impose, passant de 1757 en 2016 à 5271. Nous, on trouvait qu'il y avait urgence de les immortaliser, qu'ils laissent une trace, me disent les deux sœurs Latour-Blais, attendries et fascinées par le quatrième âge. Plus libre qu'à 20 ans. Cette génération d'avant-guerre a retrouvé avec les années une liberté de parole et de gestes qui lui faisait cruellement défaut. Elle ne craint plus les curés, fait mentir les docteurs et les pronostics de démence, a survécu aux modes et semble avoir conservé une certaine candeur aux antipodes du cynisme en vogue. J'ai laissé les pilules dans la pharmacie puis j'ai confié ma santé à une bouteille de Saint-Rémy, dit Claire, mais juste un petit verre. les sœurs Latour-Blais cherchaient l'élixir qui nous permet de vivre 100 ans. Elles ont trouvé pour chaque personnage une phrase magique qui permet de traverser la journée. Cela a un côté apaisant. Ça aide à relativiser nos gros tracas sur l'échelle d'une vie, constate Marie-Noël. Madeleine Rousseau, 102 ans au compteur, leur a confié qu'elle vivait la plus belle tranche de sa vie depuis 20 ans dans sa résidence, en phase avec une liberté nouvelle, le plaisir de vivre sans inquiétude ni stress. Cette génération a connu le confort tardif. Les femmes ont dû se battre pour obtenir le droit de vote et l'accès à la contraception est arrivé trop tard pour elles. Les hommes devaient subvenir aux besoins de leur grosse famille. On pensait peu à soi, beaucoup à son prochain. Si j'ai un conseil à donner à un jeune de 20 ans, c'est d'être généreux, de pas juste penser à soi-même. Il y a juste ça pour rendre heureux, souligne Conrad Gilbert, l'horloger de 101 ans dont les aiguilles de la montre ne se sont pas encore arrêtées sur ce siècle individualiste. Dans le cimetière, on a un lot que j'avais acheté il y a longtemps passé avec la famille. Puis moi, il y avait marqué 1916, trait d'union, 19, avec deux petites lignes. Mais là, va falloir qu'ils effacent ça et qu'ils mettent 2000 quelques quand je vais mourir, dit Aldéric Parent, 101 ans. Jeter ses choux gras. Ils ont vécu les changements radicaux du 20e siècle sur le terrain de la réalité, assisté à toutes sortes de libérations, tranquilles ou non. On peut fréquenter l'école, connu la guerre, les privations, le sacrifice, le neuf avec du vieux, et même le vieux avec du vieux. Et pourtant, notre époque leur tourne le dos, ne s'intéresse pas à leurs contributions. À l'heure où les scientifiques nous prédisent la fin d'un monde avant le crépuscule, ils ont vécu à la débrouille, dans la simplicité involontaire, sans jamais gaspiller, en usant d'ingéniosité pour arriver à survivre dans un pays de givre. La solidarité y était pour beaucoup. On se retroussait les manches et on se serrait les coudes. Justine, la photographe, et Marie-Noël, la libraire, ont déjà quelque chose en commun avec l'ancien temps. Elles vivent en famille avec le chum de Justine et leur fils d'un an. Elles espèrent, comme les sœurs Berthe et Georgette, comme Claire et sa sœur Aurore, terminer leur jour ensemble, bercées par leurs souvenirs communs. « Moi, ça m'a donné envie de vivre jusqu'à 100 ans. J'ai hâte d'être vieille », lance Marie-Noël, que ces rencontres ont ragaillardi. Dans les sillons des rides, dans la résilience des dos voûtés, au-delà des raideurs du corps, la sagesse s'est tapie, confirmant l'adage « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». C'est un patrimoine vivant, insiste Justine. Mais ils se sentent comme s'ils ne servaient à rien. Personne ne les écoute. Ils nous l'ont dit. Ils étaient ravis qu'on s'intéresse à eux. Avec notre obsession de la productivité, nous les avons négligés. Nous, on espère donner envie aux jeunes de se tourner vers les générations antérieures, car nous serons tous perdants. Ils nous enseignent comment aborder la vie. Le seul regret de ces vieilles âmes est probablement d'avoir été enterrées bien vivantes, 30 ans avant le temps. Alors, « Il attend et il fonce », José Blanchette parle d'un livre, l'album photo, Jacques Nadeau 2017, est sorti cette semaine. Je l'ai dévoré des yeux, page après page, y retrouvant certaines photos de nos reportages ensemble, mais aussi un paquet d'inédits. J'ai adoré les explications de Jacques Nadeau sur le temps qu'il passe à attendre la photo, en suivant son instinct et son regard de lynx. Un diaporama magnifique de la société québécoise et de l'année qui se termine, assorti des textes de Mélanie Loisel. J'ai l'honneur de préfacer l'ouvrage, mais c'est à titre d'ami de l'auteur que je vous incite à aller le rencontrer samedi, de midi à 14h, au Salon du livre de Montréal, stand 517 chez Fidèze. Et Jacques, pas Jacques, mais José Blanchette dit « J'ai souri ». En visionnant cette vidéo de Claire Sigouin qui nous la présente avec sa dégaine d'ado de 102 ans, selon les auteurs de Vivre 100 ans. Elle y parle de ses amis dans la vie et sur Facebook. Les deux auteurs seront au Salon du Livre de Montréal pour des dédicaces dimanche de midi à 13h au stand 117, édition Marchand de feuilles. Alors, à mes aïeux, centenaire malgré eux, et avec une larme de Brandy à lire dans le Devoir d'aujourd'hui, c'est une chronique de José Blanchette. masculine cuir et Cadillac ou Cadillac. Maison Godefroy est une marque montréalaise qui se spécialise dans les accessoires en cuir de luxe pour hommes. Depuis 2014, elle propose d'élégantes cravates, des nœuds papillons, des bracelets, des portefeuilles et toutes les pièces de maroquinerie, le tout dans un design très épuré. C'est un texte d'Olivia Lévy dans la presse. Tous nos accessoires 100% cuir sont fabriqués ici, à la main, par des artisans. J'adore l'odeur du cuir. C'est une matière qui est agréable au toucher et avec laquelle il est formidable de travailler, explique Charles-Olivier Pilon, fondateur de Maison Godefroy. Le jeune entrepreneur remarque que même si les gens font beaucoup d'achats en ligne, lorsqu'il est question du cuir, les consommateurs aiment toucher la matière. Les gens aiment sentir le cuir, le toucher pour voir s'il est de qualité, car on n'achète pas du cuir comme on achète un T-shirt, dit Charles-Olivier Pilon. À qui s'adresse Maison Godefroy? À des jeunes professionnels qui veulent se démarquer à travers leurs accessoires, en portant une cravate en cuir ou en achetant, par exemple, un porte-carte en cuir de couleur, indique Charles-Olivier Pilon. Il reconnaît qu'il faut un brin d'audace pour porter un nœud papillon ou une cravate en cuir, mais qu'un simple accessoire peut ajouter une belle touche à son ensemble. Le nom de son entreprise vient de son ancêtre, Godefroy Lacroix, un vrai gentleman de l'époque, à l'allure très raffinée. Vous écoutez l'émission Les Voix de service quotidien. Je vous invite à rester avec nous pour l'actualité internationale, l'actualité culturelle, ainsi que la tournée des journaux régionaux. Hélène Denis qui vous souhaite un agréable vendredi 17 novembre 2017. Fantômes.
flamme céleste qui se perd comme une fumée blanche, comme une fumée blanche.
Yves Desrosiers, sa chanson Fumée blanche.
Actualité internationale, Zimbabwe, Mugabe refuse de démissionner. Le président Robert Mugabe a catégoriquement refusé jeudi de renoncer au pouvoir sans partage qu'il exerce depuis 37 ans à la tête du Zimbabwe au cours de discussions avec l'armée qui a pris le contrôle de la capitale Harare, placée en résidence surveillée dans la nuit de mardi à mercredi. Le chef de l'État, 93 ans, a rencontré pour la première fois jeudi après-midi le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, au siège de la présidence à Harare, a rapporté à l'agence France-Presse une source proche des militaires. Ils se sont rencontrés aujourd'hui, il a refusé de démissionner, je pense qu'il essaie de gagner du temps, a déclaré cette source sous couvert de l'anonymat. Le gouvernement Trump faisait face jeudi à une avalanche de critiques de la part des associations de défense des animaux pour avoir réautorisé les chasseurs américains à importer des trophées d'éléphants tués au Zimbabwe. La décision a d'autant plus choqué que les arguments sur lesquels s'appuie ce changement de politique sont jugés fallacieux. Les autorités américaines ont infirmé une précédente interdiction imposée sous Obama. Selon l'organisation Great Elephant Census, le nombre de pachydermes a chuté de 30 % entre 2007 et 2014 en Afrique, 6 % au Zimbabwe. Le gouvernement américain exploite avec cette décision un aspect de la loi sur les espèces en danger qui stipule que l'importation de tels trophées peut être légale si preuve est apportée que la chasse bénéficie à la conservation plus large des espèces. Une partie de l'immense clôture de 3,8 millions de dollars qui va ceinturer le manoir Richelieu jusqu'au fleuve lors du sommet du G7 sera installée avant la période des fêtes. C'est du moins ce qu'affirme le directeur général du groupe Laval-Fortin d'Alma qui a décroché le contrat de 3,8 millions pour la construire et l'installer. Une réunion de démarrage avait d'ailleurs lieu hier pour établir les étapes à suivre afin de livrer la clôture en avril ou mai prochain à temps pour le sommet prévu les 8 et 9 juin 2018. Les responsables de trois agences de l'ONU ont affirmé hier que des milliers de victimes innocentes allaient mourir au Yémen si le blocus imposé par la coalition menée par l'Arabie saoudite se poursuivait dans une guerre qualifiée de stupide par Antonio Guterres. À New York, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a dit que ce dernier était très déçu de ne pas voir une levée du blocus réclamé depuis plus d'une semaine par le Conseil de sécurité. C'est une crise créée par l'homme, a-t-il ajouté, racontant qu'Antonio Guterres avait qualifié le conflit au Yémen de guerre stupide. Dans une lettre à l'ambassadeur d'Arabie saoudite à l'ONU, Abdallah al-Mualimi, Antonio Guterres réclame de nouveau un accès humanitaire pour les avions de l'ONU à Sanaa et Aden et aux ports de Houdeda et Salef. Il propose aussi d'envoyer une équipe en Arabie saoudite pour étudier un renforcement des inspections des cargaisons, mais seulement une fois que l'aide humanitaire pourra reprendre. Pour moins de 10 $, vous pouvez vous aussi acheter de fausses informations, entre parenthèses, fake news, que les cybercriminels proposent maintenant à la vente pour s'attaquer au commerce en ligne, un moyen pour eux d'engranger des profits selon un rapport paru hier. Les chercheurs de la société de sécurité informatique Digital Shadows décrivent l'apparition de services destinés à créer des sites Internet bidons, de faux commentaires et des comptes automatisés sur les réseaux sociaux pour promouvoir ou dénigrer des produits et des services commerciaux. Les pirates informatiques clonent un site d'information légitime. Il suffit souvent de changer une lettre de l'adresse Internet du média visé, puis modifient une partie du contenu d'un vrai article et le font fuiter dans le cadre d'une campagne de désinformation. Les chercheurs de Digital Shadows ont ainsi découvert 2800 faux sites d'information. Actualité culturelle, enseignement du théâtre. Gilbert Sicotte suspendu. Rien qu'un jeu? Suspendu par le Conservatoire d'art dramatique, Gilbert Sicotte a fait l'objet d'une enquête de Radio-Canada dans laquelle d'ex-élèves dénoncent ses méthodes d'enseignement. Ils affirment avoir été victimes de harcèlement psychologique de la part du comédien et porter encore les blessures de la brutalité de son enseignement. Des allégations qui ont semé l'émoi hier, la presse s'est penchée sur la réalité de la formation en jeu avec des acteurs du milieu. C'est un dossier de Luc Boulanger, Véronique Lauzon et Stéphanie Vallet. Les anciens élèves, qu'en disent d'anciens élèves de Gilbert Sicotte au conservatoire? Marie-Ève Beaulieu, comédienne diplômée en 2004. C'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion. Au début du conservatoire, j'ai vécu des choses difficiles, blessantes, brutales dans le cours de Gilbert Sicotte. Mais ça m'a aidé pour la suite des choses. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais je compatis avec les victimes. Je suis partisane de méthodes plus douces. Je crois qu'on s'épanouit davantage dans l'amour et le respect. Ce n'est pas vrai que la création doit se faire dans un climat inconfortable, un milieu hostile. Le processus de jeu est complexe, des interprètes vont se nourrir de la confrontation comme un moteur pour se dépasser, alors que d'autres se sentiront profondément meurtris. Jonathan Michaud, comédien, il faut cesser de véhiculer le cliché de l'acteur qui souffre sans cesse et qui puise dans ses bibites intérieures. Je n'ai pas vécu la douleur dans mes cours au conservatoire, même si ça n'a pas toujours été facile. Pendant 3 ans, la formation est graduelle et basée sur la personnalité de l'élève. Avant le conservatoire, j'ai étudié 2 ans en théâtre à l'UQAM. C'est très différent. Les enseignants sont des chargés de cours à l'UQAM, ils ne se parlent pas nécessairement du cheminement des élèves, alors qu'au conservatoire, il y a un suivi et une évaluation avec tout le corps professoral. Philippe Thibault-Denis, comédien, « Je me suis fait dire en première année par plusieurs profs que je faisais fausse route. Je crois que ça a été bénéfique pour moi. Je ne travaillais pas assez fort, j'étais nonchalant et ça m'a servi. Ça fait mal, tu as l'impression de te présenter toi, mais ce que tu présentes, c'est un travail, un personnage dont la voix et le corps sont les tiens. Tout part de toi, de ton image et de ta sensibilité. C'est sûr que de te faire dire que ça ne marche pas, tu as l'impression que c'est une attaque personnelle. Mais en 3 ans, je n'ai jamais été témoin de harcèlement psychologique de la part des professeurs. Ils vont utiliser des approches différentes selon les élèves qui se trouvent devant eux. Il y a autant de manières d'enseigner qu'il y a de professeurs et autant de manières d'apprendre qu'il y a d'élèves. Et Virginie Rangé-Beauregard, c'est une formation intensive et difficile. Quand on se fait accepter au conservatoire, on fait partie des 10 finalistes sur 400. On est très fiers de soi, disons. Puis, tu as 12 profs qui passent leur temps à taper sur le même clou, à tenter de te faire aller là où tu n'oses pas aller. Il faut s'attendre à être confronté au conservatoire. On est là pour dépasser nos limites. Bien sûr, personne n'a besoin de se faire insulter pour ça. Mais ce cursus est un choix qu'on fait en tant qu'adulte. Il y a d'autres chemins pour nous faire ce métier, si cela ne nous convient pas. Et les vétérans, qu'en disent-ils? Linda Surgini, ce n'est pas parce que tu es un bon acteur avec une carrière exceptionnelle que tu es automatiquement un bon pédagogue. Yves Desgagnés, c'est vrai que comme professeur, tu dois y aller avec énormément de délicatesse et de pédagogie. Il faut que tu prennes l'acteur pratiquement par la main. Et l'objectif d'un enseignement en art est que la personne devienne autonome, qu'elle soit capable d'aller dans ses couloirs émotifs pour offrir le personnage qui est requis. Tu vas chercher dans ta mémoire l'émotion qui correspond au personnage. Évidemment, tu vas toucher chez les élèves des zones parfois bien obscures. Des scènes de larmes dans les salles de cours, c'est monnaie courante parce que tu vas explorer des territoires sensibles. Alors, c'est difficile comme métier être professeur de théâtre. Ça demande beaucoup de doigté parce que ce sont des jeunes sans expérience que nous formons. Les interprètes doivent-ils souffrir pour bien jouer? Réflexion de recueillie donc sur Facebook et réaction, surtout Bruno Marcille. Dire que c'est nécessaire d'être rude dans ce métier, c'est complètement bidon. René Richard Cyr n'a jamais levé le ton avec dédain ou utilisé une technique qui pourrait se rapprocher de ce genre d'attitude. Fait-il de moins bons spectacles? Ses acteurs sont-ils moins investis? Tout ça est désolant pour l'ensemble du milieu théâtral. Julie Gagné, agente d'artiste et comédienne, depuis le succès du film Whiplash, je me questionne beaucoup sur la valorisation de la souffrance dans le processus créatif et pédagogique des artistes. C'est une croyance répandue et socialement acceptée. La notion que ces méthodes forgent, préparent, que ça fait jaillir l'unique, je n'endosse pas, mais constate. Beaucoup de réactions et peu de réflexions en ce moment. Je trouve cela pernicieux. Sylvain Scott, acteur et metteur en scène, je ne crois tellement pas à ce genre de méthode. Moi, j'aime mettre en confiance ceux et celles avec qui je travaille en tant que metteur en scène. Marie-Danielle Lucier, comédienne, chaque professeur a sa méthode. Par contre, je peux dire que pour moi, pour évoluer et avancer, j'ai besoin que ça se fasse dans le respect. L'animateur de talk show Jimmy Fallon s'est beaucoup moqué de l'album du chanteur français Philippe Catherine à son émission dans un segment comique qu'on pourrait appeler « N'écoutez pas ça ». Il trouvait particulièrement mauvaise et hilarante la chanson « Moustache ». Mais Fallon a décidé d'inviter Philippe Catherine sur son plateau mercredi soir afin de chanter à deux, entouré de « Moustache en peluche », ce tube difficile à classer. Et ils ont l'air de bien s'amuser. Alors, on en parle dans la presse d'aujourd'hui. Moustache par Catherine. Un bye-bye avant l'heure. Dans leur nouveau spectacle, Daniel Lemire et Pierre Verville proposent une véritable revue de l'actualité. L'information a toujours servi de carré de sable à Daniel Lemire et Pierre Verville et pour souligner plus de 30 ans d'amitié au Théâtre Maisonneuve jeudi, les complices n'ont pas eu à chercher bien loin leur matière première. Un spectacle aux allures de bye-bye avec juste ce qu'il faut de mordant. Miles Davis, c'est toujours agréable en ce vendredi d'automne, de novembre, encore plus à l'aube d'une petite tempête, paraît-il, mais pas à Montréal. Il y aura une espèce de cocktail, on parle de pluie, de neige, peut-être un peu de verglas. C'est un petit peu difficile à prévoir selon les météorologues parce que le mercure joue entre le 0, le moins 1 et le plus 1. On verra bien. Alors, la tournée des journaux régionaux, je commence avec une chronique de Mylène Moisan dans Le Soleil d'aujourd'hui qui s'intitule « Qui sera votre tête? » Il y a quelques années, Madame D. a convoqué deux de ses quatre enfants, Marie, prénom fictif, et son frère, pour leur demander de s'occuper de ses affaires à sa place le jour où elle ne pourrait plus le faire, de gérer à deux le mandat de protection. Mon frère tout de suite a dit qu'il allait s'en occuper tout seul, que ce serait moins compliqué comme ça. Mon autre frère a signé, moi je suis allée voir une notaire pour savoir ce que ça impliquait. Il est à Québec, moi je suis à l'extérieur, ma mère était d'accord, j'ai fini par signer. C'est son propre fils après tout. La dame a reçu un diagnostic d'Alzheimer, le mandat a dû être activé. Le frère est devenu mandataire unique pour les biens de sa mère et pour sa personne. 6 mois après, j'ai demandé si notre mère avait assez d'argent. Il m'a répondu « Je te dirai ça en temps et lieu ». Je savais qu'on était dans le trouble. Big time. Depuis plus de 2 ans, les 3 autres enfants de Madame D sont tenus dans l'ignorance. Leur frère ne leur transmet aucune information. Il prend les décisions tout seul, comme d'interdire à sa mère de sortir à l'extérieur de la résidence. Elle aime tellement ça, aller voir les canards, elle ne peut plus. Le frère interdit à ses sœurs et à son frère d'avoir accès au dossier médical de leur mère. Il change de médecin sans les prévenir. Sa femme et sa fille ont le droit d'avoir de l'information, mais pas nous. Une fois, elle était hospitalisée, c'était écrit qu'ils n'avaient pas le droit de nous parler. Marie a toujours tenu un registre des médicaments que prenait sa mère et de ses ennuis de santé. Je ne sais plus rien maintenant. Marie vient à Québec tous les mois depuis plus de 2 ans pour passer du temps avec sa mère. Un jour, j'ai voulu la sortir, mais on m'a dit qu'elle n'avait pas le droit. On m'a dit que mon frère lui interdisait de sortir et que le médecin était d'accord avec ça. J'ai réussi à parler au médecin. Il m'a dit, « Vous savez, ça ne sert à rien de donner de beaux moments à votre mère. Elle ne s'en souvient pas. » Marie n'en revient pas encore. Qu'à cela ne tienne, Marie a tout de même essayé de faire sortir sa mère. Je voulais aller avec elle dans la balançoire, elle est juste de l'autre bord de la porte, on la voit de l'intérieur. Ça a fait tout un chiard, c'est monté jusqu'au directeur. Il me fallait avoir la permission de mon frère. Marie ne lâche pas. Elle a pu, à de trop rares occasions, obtenir la bénédiction du mandataire. Ma mère est difficile, je sais, mais il ne faut pas lâcher. Elle aime les sorties, elle aime aller au resto, elle la raffole des huîtres. C'est comme une enfant. C'est plus d'ouvrage, mais je le fais. Son frère n'aime pas ça. Il dit que je la stimule trop. Marie, sa sœur et son autre frère sont impuissants devant cette situation. Il faudrait qu'il lâche le mandat. C'est ça qu'on souhaiterait. On ne sait pas pourquoi il agit de cette façon-là, on ne comprend pas. Faire invalider un mandat est presque mission impossible. Il faut poursuivre en cours, démontrer que le mandataire ne sert pas les intérêts de la personne. Je serais curieuse de savoir combien de mandats sont retirés. Une fois, Marie a embauché un notaire pour savoir comment avoir la permission d'inviter sa mère chez elle pour les fêtes. Il m'a conseillé d'obtenir une lettre du médecin, j'ai réussi à l'obtenir. Elle a fini par avoir la permission. On a passé une semaine ensemble, elle a vu mon fils, mon neveu, c'était bien. Si Marie avait une machine à remonter le temps, elle retournerait chez le notaire. Elle refuserait de signer. Mea culpa, c'est ma faute. C'était de bonne foi, mais c'est ma faute. J'y pense tous les jours. Il n'y a pas de mots pour décrire comment je me sens. Je vais emmener ça dans ma tombe. Un truc pour éviter ça. Nommez 2 mandataires. Un pour vos biens, un pour votre personne. C'est ce que la mère de Marie voulait. Et c'est pour ça que Marie m'a raconté son histoire, parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Et pour ne pas que d'autres personnes se retrouvent gros gens comme devant, comme elle, son frère et sa sœur, à faire semblant, quand ils vont voir leur mère, que tout va bien. Et c'est avec cette nouvelle triste, mais en même temps, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, et une femme ou un homme averti en Val 2. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis qui vous souhaite un excellent week-end. Allez-vous profiter du Salon du livre. Mathieu y sera ce soir. C'est moi, exact. Je vais aller faire mon tour demain après-midi.
C'est vrai? Bon, ben, ouais. on ne se verra pas.
Non,
mais...
on va se voir la semaine prochaine.
C'est exact.
Oui. Merci de votre collaboration à la mise en onde. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine.